Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et nous maisonnons le feu de votre amour. Oui, votre Esprit Seigneur se fera une création nouvelle. Vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant, et à l'heure de notre mort.
Nos saints anges gardiens,
priez sur
nous. Saint Pénis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On adore ce chat. On adore le chat. Allez, dors. Allez. Alors, dans le polycopier, nous en sommes à la page 24. Saint Matthieu, chapitre 8, verset 18. On essaie d'avancer un petit peu aujourd'hui. La dernière fois, j'ai pas pu donner de cours à cause de la retraite. Jésus, voyant des foules nombreuses autour de lui, ordonna de passer à l'autre bord du lac. Alors, un scribe s'approchant de lui, lui dit, « Maître, je vous suivrai partout où vous irez. » Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. » Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permettez-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Et Jésus lui dit, « Suivez-moi et laissez les morts ensevelir les morts. » Donc, sur les textes, c'est un petit peu difficile à comprendre. Alors, on va voir un petit peu ce qu'en disent les Pères. Donc la phrase la plus importante, je pense que c'est celle-ci, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. En fait, il faut prendre, d'après les Pères, il faut prendre ce terme, cette phrase, dans un sens spirituel. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas la foi ou une foi trop faible, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête sur notre foi. Imaginez la foi un petit peu comme un oreiller spirituel, et quel autre Seigneur Jésus-Christ peut venir se reposer. Et s'il n'y a pas la foi dans une âme, ou si la foi est trop faible, notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas rentrer dans cette âme, ou plus exactement ne va pas y rester. Alors au contraire, si les renards sont dans l'âme à la place de notre Seigneur Jésus-Christ, et si les oiseaux du ciel occupent par leur nid l'âme qui devrait être occupée par notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les Pères disent que les renards ont leur tanière dans notre âme quand cette âme est pleine de ruse, c'est-à-dire quand il y a un manque d'esprit de droiture dans notre âme. Au contraire, les oiseaux du ciel ont, pas au contraire, mais en plus, les oiseaux du ciel ont leur nid dans notre cœur, dans notre âme, si ce dernier est dominé par l'orgueil. Donc s'il y a dans notre âme cet esprit de ruse représenté par le renard et l'esprit d'orgueil représenté par les oiseaux, vous ne pouvez me suivre. Pourquoi? Parce que celui qui est trompeur ne peut pas marcher simplement. Et donc, si vous voulez, la présence du renard et la présence des oiseaux dans l'âme représente la présence des choses mondaines qui n'ont plus rien à faire dans l'âme. Et c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas à reposer sa tête, parce que notre Seigneur ne va pas se reposer sa tête dans une âme qui est partagée. On ne partage pas avec notre Seigneur. Et si notre âme est partagée, la moitié pour notre Seigneur Jésus-Christ, la moitié pour le monde, notre Seigneur Jésus-Christ s'en va. Rappelez-vous cette phrase, je crois que c'était dimanche dernier, l'évangile du jour, qui dit bien, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Personne ne peut à la fois adorer notre Seigneur Jésus-Christ et le monde. Alors, il y a d'autres explications que donnent les Pères. C'est une autre façon d'expliquer cette parabole qui est un petit peu difficile à comprendre, il faut bien reconnaître. Certains pères disent que quand il n'y a pas de place pour notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme, c'est qu'il n'y a pas d'oreilles intérieures de l'âme qui sont ouvertes à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une disponibilité de l'âme à entendre notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement veut rentrer dans une âme en état de grâce, mais il veut aussi rentrer dans une âme qui est ouverte à la grâce. Vous voyez ? On voit des gens qui sont en état de grâce, mais ils limitent en quelque sorte la puissance du bon Dieu dans leur âme. En gros, ils disent une certaine forme de, comment dire, de, comment expliquer ça, une certaine forme de manière, si vous voulez, de limiter le pouvoir de Dieu. On veut bien se sanctifier, mais pas trop, quoi. Donc on limite en quelque sorte le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme. On veut bien notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme, mais à condition qu'il ne demande pas trop. C'est un petit peu ce que veulent dire ici les pères. Voilà le texte. Donc comme le scribe considérait, comme il ne, je lis un texte complet, c'est juste en dessous du verset 22 du chapitre 8 de Saint Matthieu. Si ce scribe qui ne connaissait que la lettre qui tue avait dit « Seigneur, je vous suivrai partout où vous irez », il n'eût pas été repoussé par le Sauveur. Mais comme il ne le considérait pas comme un maître ordinaire, qui n'était lui-même qu'un homme attaché à la lettre extérieure, n'avait pas les oreilles intérieures de l'âme, il n'avait en lui rien où Jésus puisse reposer sa tête. Nous voyons donc que ce scribe a été rejeté parce qu'à la vue des prodiges étonnants opérés par le Sauveur, il ne voulait le suivre que pour recueillir du profit de ses œuvres. Il désirait ce que Simon le magicien voulait plus tard acheter de Saint-Pierre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez, il y a deux sortes de chrétiens. Le chrétien qui ouvre son cœur complètement et qui dit au bon Dieu, mais écoutez, rentrez dans mon cœur, vous faites ce que vous voulez. Et au contraire, le chrétien qui limite en quelque sorte la liberté de Dieu dans son âme. Je veux bien de vous, mon Dieu. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ont un petit placard qui est bien orné à l'entrée de leur maison pour notre Seigneur Jésus-Christ. Quand notre Seigneur Jésus-Christ rentre dans la maison, ils le conduisent vers le placard et là, bon, tout est beau, c'est propre, il y a des fleurs, et ça sent bon, et on a mis du tissu blanc partout. Et on dit, bon Dieu, voilà, ici c'est votre place, vous restez ici, je viendrai vous voir dans la journée. Mais, sous-entendu, ne sortez pas de votre placard. Vous restez là où vous êtes, et venez pas dans mon âme me dire ce qu'il faut faire. Voyez, ça, c'est à mon avis, ça représente les catholiques, il y en a beaucoup, beaucoup actuellement, qui veulent bien sanctifier, mais à leurs conditions. Ils veulent bien sanctifier sur certaines choses. Par exemple, ils veulent bien, au niveau de la messe, se sanctifier, faire des kilomètres pour avoir la messe traditionnelle. Ils ne vont pas vouloir se sanctifier sur d'autres choses parce qu'ils n'ont pas l'intention de lâcher notre Seigneur, de lâcher le monde complètement. Par exemple, ils vont dans un exemple tout simple, vont imaginer un jeune homme qui écoute, de la musique rock à longueur de journée à la maison. Il y en a qui iront quand même à la messe traditionnelle, j'en ai vu. Donc ils vont à la messe traditionnelle le dimanche, c'est un peu une façon pour eux de rattraper le fait qu'ils écoutent du rock dans la journée. Mais si le bon Dieu leur disait, depuis le Saint-Sacrement, « Je voudrais que tu abandonnes le rock », ils diront non. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont malheureux. Et c'est ce terme, donc c'est cette phrase. Donc le scribe qui s'approche, qui dit « Seigneur, vous pouvez rentrer partout où vous voulez dans ma maison », en gros c'est ce qu'il vous dit, c'est ce qu'il dit, je vous suivrai partout où vous irez, ça veut dire, vous pouvez rentrer dans ma maison est libre, notre Seigneur Jésus-Christ lui dit, votre maison n'est pas libre, parce qu'il y a dans votre maison des renards et des oiseaux, c'est-à-dire qu'il y a la ruse et il y a l'orgueil. Et donc, je ne peux pas rentrer dans cette âme parce que je ne suis pas à ma place dans cette âme. Alors, il y a d'autres explications données par Saint Grégoire, le pape Saint Grégoire, donc c'est le troisième paragraphe en dessous de l'encadré de l'évangile. Les renards sont des animaux rusés qui se cachent dans les trous ou dans les cavernes. Lorsqu'ils en sortent, ce n'est point dans les droits chemins, mais dans les sentiers détournés qu'on les voit courir. Quant aux oiseaux, leur vol est très élevé au-dessus de la terre. Vous voyez, on retrouve un petit peu la même idée, c'est-à-dire le vol très élevé représente l'orgueil. Le renard qui ne suit pas les chemins droits, mais les chemins détournés, représente le manque de simplicité, donc la ruse. Il faut donc entendre par les regards les démons de la ruse et de la fourberie, et par les oiseaux les démons de l'orgueil. Là, on voit différents pères qui disent la même chose. Voici donc le sens des paroles de Jésus. Les démons de la ruse et de la vaine gloire trouvent place dans votre cœur, mais mon humilité ne peut se reposer dans une âme livrée à l'orgueil. Ça veut dire, puisque vous voulez laisser les renards avoir une tanière dans votre cœur, puisque vous voulez laisser les oiseaux construire leur nid dans votre âme, ça veut dire que vous n'êtes pas tout à notre Seigneur. Et donc moi je ne peux pas rentrer dans cette âme, je ne peux pas y demeurer parce que je ne suis pas vraiment chez moi. Vous voulez partager entre notre Seigneur Jésus-Christ d'une part et d'autre part les choses du monde représentées par les renards et les oiseaux. Saint Augustin, une explication un petit peu différente, il est à croire, dit-il, que séduit par l'éclat des miracles du Sauveur, le scribe voulait s'attacher à lui pour un motif de vaine gloire, notre Seigneur, figuré ici par les oiseaux. et qu'il a joué le personnage d'un disciple obéissant, hypocrisique, qui est représenté par le renard. Ton Seigneur Jésus-Christ, il juge le fond des cœurs, il ne juge pas l'extérieur comme nous. Rabban Mor, encore un père de l'Église, qui dit « Les hérétiques qui mettent toute leur confiance dans leur subtilité sont ici figurés par les renards, et les esprits malins par les oiseaux du ciel. Les uns et les autres avaient leur tanière et leur nid, c'est-à-dire leur demeure dans le cœur du peuple juif. » Pas oublier que la première des béatitudes, c'est quoi? C'est bienheureux les pauvres d'esprit. Ceux qui sont pauvres d'esprit, c'est ceux justement qui ont la simplicité d'esprit. Pauvres d'esprit ou simples d'esprit, c'est la même chose. Dans le langage biblique, ça veut dire quoi? Ça veut dire bienheureux les gens qui n'ont dans leur âme ni fourberie ni orgueil. L'humilité est incompatible avec la fourberie et l'orgueil. Bon, la fourberie, si vous voulez, c'est une espèce de ruse, esprit de ruse. C'est-à-dire on suit notre Seigneur Jésus-Christ pour sa fin personnelle. On veut utiliser notre Seigneur Jésus-Christ à ses fins propres. Alors, d'autres explications, toujours des pères de l'Église, dont nous apprend encore à ne pas mêler à la mémoire des saints le souvenir de ceux qui sont morts dans l'infidélité et regarder comme morts ceux qui vivent en dehors de la voie de la vie de Dieu. On peut encore dire que les morts ensevelissent leurs morts lorsque les pécheurs se montrent favorables aux pécheurs, car en prodiguant les louanges à celui qui pêche, ils enterrent, pour ainsi dire, ce mort sous le poids de leurs éloges. Bon, c'est l'explication de la tentative d'explication de cette phrase de notre Seigneur, qui, pourtant, alors qu'un disciple demande une chose qui semble parfaitement légitime, laissez-moi d'abord ensevelir mon Père. Et notre Seigneur de répondre, suivez-moi, laissez les morts ensevelir les morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que notre Seigneur Jésus-Christ condamne les œuvres de piété à l'égard d'un père défunt, pas du tout. Ça veut simplement dire qu'il faut être disposé, si on veut suivre notre Seigneur Jésus-Christ, à tout lâcher pour lui, y compris la famille. Et c'est ça que ça veut dire. L'Église n'a jamais condamné, au contraire, la dévotion à l'égard des âmes du purgatoire et le respect dû au corps qui a été le temple du Saint-Esprit. Alors, là, il y a en bas de la page 24, donc sur le polycopier, il y a une objection à propos d'une hérésie de ceux qui condamnaient la pauvreté volontaire que la vie religieuse professe. Donc, ça venait d'un certain Lombard nommé Desiderius, au temps du pape Alexandre IV, et d'un Guillaume de Saint-Amour qui fut réfuté par saint Thomas et saint Bonaventure. Donc l'erreur opposée, soutenue par les hérétiques appelés apostoliques, ont faussement conclu de ce passage que la pauvreté absolue est nécessaire au salut de tous les hommes. Donc on voit les deux erreurs, comme d'habitude, à droite et à gauche. C'est-à-dire à gauche, on peut dire ceux qui refusent la pauvreté en disant que la pauvreté volontaire est une injure à Dieu, et ceux qui au contraire disent que la pauvreté est absolument nécessaire au salut. Sous-entendu, celui qui n'a pas la pauvreté, l'esprit de pauvreté, ne peut pas rentrer au ciel. Il est évident que la réponse est que tout dépend de notre devoir d'État et de notre état de vie. Un moine franciscain qui vit dans un monastère peut pratiquer l'esprit de pauvreté et même le vœu de pauvreté. Mais quelqu'un qui vit dans le monde, bon Dieu ne va pas lui demander de pratiquer la même pauvreté parce qu'il est dans une situation complètement différente. Les moines franciscains dans leur monastère, ils n'ont pas des enfants à s'occuper, ils n'ont pas une épouse et des enfants qui doivent prendre charge. Et donc le bon Dieu leur demande des choses différentes. Alors, il y avait aussi les Vaudois, ou pauvres hommes de Lyon. Donc, c'est encore d'autres hérétiques, page 25, en haut de la page. Et Wycliffe, qui ont faussement prétendu qu'il était interdit aux évêques et aux prêtres de posséder à moindre propriété, et qu'ils devaient ne vivre que sur des aumônes, comme le Christ l'avait fait. Ça, on retrouve un peu cet esprit-là dans l'Église de Vatican II, qui ne parle que de l'Église des pauvres. Donc ils donnent l'impression qu'ils veulent limiter en quelque sorte que les pauvres dans l'Église de Dieu. En fait, l'Église de Dieu, elle n'est pas faite pour les pauvres ou pour les riches, elle est faite pour tout le monde. Elle s'ouvre à tout le monde. Et on voit très bien, ça c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui à la fois s'occupait des pauvres, il passait beaucoup de temps avec les pauvres, à guérir les pauvres, à enseigner les pauvres, mais il avait aussi parmi ses amis, par exemple la famille de Saint-Lazare, qui était une famille qui avait une certaine aisance financière. Mais on voit très bien chez les différents saints comment des saints sont restés avec un certain apparat extérieur. Par exemple, je pense à des saints qui étaient des rois, prenez Saint-Louis, c'était la fête il n'y a pas longtemps, Saint-Louis, roi de France, bien souvent ces rois avaient un extérieur, ils devaient, parce qu'ils sont rois, ils devaient représenter le pouvoir royal, et donc dans les habits extérieurs qu'ils montraient, eh bien, il y avait une certaine richesse qui correspondait à leur devoir d'État. Mais souvent, sous les habits somptueux, il y avait la chemise de crin et la discipline, eh bien, que personne ne voyait, mais qui était leur véritable vie. C'était le cas, par exemple, pour Saint-Louis. Donc, il faut... L'Église n'a jamais condamné ni ceux qui pratiquent la pauvreté volontaire, ni ceux qui restaient dans le monde avec une certaine chose mondaine dans leur vie de tous les jours, si ça correspondait à leur devoir d'État. Vous voyez ? Alors, l'Église ne demande pas les mêmes pratiques de sainteté à une mère de famille et à une sœur religieuse dans un ordre où on pratique les trois vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance. Et d'après certains hérétiques, c'est le cas justement des Vaudois, et Vaudois étaient un peu comme ça, il fallait que tout le monde pratique cet esprit de pauvreté. Donc, c'est la raison pour laquelle les trois vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, ce ne sont pas des commandements, mais des conseils. Ce qu'on appelle les conseils évangéliques. Les conseils évangéliques se rajoutent aux commandements. C'est-à-dire, tout le monde est tenu aux commandements, ça c'est pour tout le monde, mais les conseils évangéliques, c'est pour ceux qui veulent en faire un peu plus. Et ceux qui veulent en faire un peu plus, c'est même pas dire que c'est pour ceux qui veulent en faire un peu plus, c'est pour ceux qui sont appelés par Dieu à en faire un peu plus. Mais ce n'est pas nous qui choisissons la vocation, c'est mon Dieu qui nous choisit. Si le Christ qui était parfait l'avait fait, il ne l'a jamais ordonné comme nécessaire au salut, mais simplement comme un conseil, ce qu'on appelle les trois conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Et qui ne sont pas bons pour tout le monde. Ils ne seraient pas bons du tout pour, par exemple, pour un roi chrétien, surtout au Moyen-Âge, de vivre, si vous voulez, la même pauvreté extérieure qu'un franciscain, parce qu'ils n'ont pas tous les deux le même devoir d'État. Mais... Alors, au sens anthropologique, c'est-à-dire au sens moral, donc qu'est-ce que veut dire ce passage de saint Matthieu ? Le Christ dit donc que les gens qui sont très occupés avec les choses mortes, qui donnent leurs esprits, testament, héritage de leurs parents et relations, sont en fait déjà morts. Il déclare à ses disciples que leur destinée consistait à vivre pour Dieu et qu'ils avaient déjà commencé à vivre en lui par la grâce pour le servir, lui, le Dieu vivant. Il leur fallait donc laisser aux morts et aux mourants les choses mortes ou sur le point de mourir. Donc, c'est-à-dire que dans certains cas, le bon Dieu va demander à certaines personnes d'abandonner complètement le culte de la famille. Donc c'est le cas, par exemple, des moines. Bon, lorsque c'était le cas au Moyen-Âge, c'est toujours en principe le cas actuellement. Quand un jeune homme rentrait dans un monastère, par exemple, pour devenir franciscain ou dominicain, si à ce moment-là, tout à fait au début de sa vie religieuse, sa famille se retrouvait dans la destitution à cause de mauvaises affaires, et que ses parents étaient vraiment en train de mourir de faim, si le moine n'avait pas encore fait ses vœux, son devoir d'État, c'était de quitter le monastère et de retourner voir ses parents. Pour les aider. Par contre, si le moine avait déjà fait ses vœux de pauvreté, de chasteté, de l'obéissance, il restait au monastère. Parce que ce moine était complètement mort au monde. Bon, et dans un cas comme ça, le monastère essayait dans la mesure du possible d'aider les parents, pour trouver une aide d'une autre façon. Alors. Page 25. Saint Matthieu chapitre 8 versets 23 à 27. Jésus monta dans une barque et ses disciples le suivirent. Et voici qu'il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Ses disciples s'approchèrent de lui et l'éveillèrent en disant, Seigneur, sauvez-nous, nous périssons. Et Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous effrayés, hommes de peu de foi? Alors se levant, il commanda au vent et à la mer, et se fit un grand calme. Ces hommes furent dans l'admiration et disaient, quel est celui à qui les vents et la mer obéissent? Alors ça, c'est très intéressant de voir ce que représente justement cette barque. Cette barque représente beaucoup de choses, à la fois l'Église, mais c'est aussi notre âme. Bon. Et quand il y a la tempête, c'est-à-dire quand à l'extérieur le vent d'hérésie souffle, le vent des persécutions souffle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier simplement que notre Seigneur Jésus-Christ est là. S'il est dans la barque, par l'état de grâce, on n'a plus rien à craindre. ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir, on va certainement souffrir, parce que les vagues, ce n'est pas très amusant, le vent qui souffle très fort dans les cordages, dans les voiles, ce n'est pas très amusant non plus. Mais du moment que notre Seigneur Jésus-Christ est dans la barque, on sait qu'on n'a rien à craindre. Et là, notre Seigneur Jésus-Christ va vilipender indirectement les apôtres pour leur manque de foi, c'est ce qu'il leur dit. Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Puisque je suis avec vous, de quoi vous plaignez-vous? Donc, notre Seigneur va prendre ses disciples avec lui, disent les pères, et les fait monter dans la même barque pour leur apprendre à ne pas s'effrayer au milieu des dangers et leur enseigner à conserver toujours l'humilité au milieu des honneurs, car il permet qu'ils soient le jouet des flots, afin de prévenir la haute idée qu'ils auraient pu avoir d'eux-mêmes en voyant que Jésus les avait pris de préférence aux autres. Donc, cette mer déchaînée représente le monde qui s'attaque aux catholiques. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ qui dort, justement, représente aussi l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dort dans son humanité, mais pas dans sa divinité. La divinité ne dort jamais. Et là, encore une fois, des textes comme cela, notre Seigneur Jésus-Christ qui dort, sont des textes très utiles pour prouver l'humanité de notre Seigneur. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, s'il a besoin de dormir, c'est qu'il était vraiment homme. On pourrait croire que puisqu'il est aussi Dieu, il a besoin de dormir, puisqu'il est Dieu. Mais non, en tant qu'homme, il a besoin de dormir. Notre Seigneur Jésus-Christ avait besoin de manger en tant qu'homme, parce qu'il était vraiment homme. Donc, lorsqu'il opérait des prodiges éclatants, il permettait à la foule d'en être témoin. Mais lorsqu'il s'agit de se mesurer avec les tentations, avec les craintes, il ne prend avec lui que les athlètes qu'il devait former à combattre contre l'univers entier. Son corps dormait, mais la divinité veillait. C'est une phrase qu'on trouve souvent chez les pères. D'accord ? Donc, c'est pas la même chose pour nous. Le corps de notre Seigneur, notre corps peut dormir, mais la divinité doit veiller dans notre âme. Et la divinité veille comment dans notre âme? La divinité veille dans notre âme par l'état de grâce. Son corps dormait, mais la divinité éveillée, il prouvait par là qu'il portait un corps véritable comme le nôtre et qu'il s'en était revêtu avec toutes ses faiblesses. Une des faiblesses, c'est justement le sommeil. Il dormait donc extérieurement pour apprendre à ses apôtres à veiller et nous apprendre à tous à éviter le sommeil de l'âme. Donc le sommeil du corps est nécessaire, mais puisque la divinité veille, cela montre que le sommeil de l'âme est impossible. L'âme ne doit jamais sommeiller, dans le sens que l'âme doit toujours être en garde et toujours être en état de grâce. Alors il y a un sens mystique qui est splendide, le sens mystique, donc c'est le sens spirituel qui est caché derrière la lettre. Donc c'est un sens qui est très souvent expliqué par les pères, cette barque représente l'Église. Donc cette barque représente l'Église, la mer représente le monde, d'accord, et l'Église doit traverser le monde pour aller au port du salut, ce port du salut c'est le ciel. Et donc il y a toute une série d'obstacles à vaincre, et notre Seigneur Jésus-Christ prend justement l'exemple de la tempête et de la barque pour montrer que le monde est exposé, que la barque de notre âme, la barque de l'Église, sera exposée dans le monde à des dangers sans fin. Et si notre Seigneur Jésus-Christ veille dans la barque, le bon Dieu étant dans la barque, le démon ne peut rien faire contre cette barque. Par contre, il peut la secouer. C'est pas parce que le démon secoue l'esquive de notre âme que ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ nous a abandonnés. Bon Dieu, parfois, de temps en temps, permet qu'on ait des désolations terribles. Bon, et c'est pas parce qu'on a une désolation que ça veut dire qu'on est abandonné par le bon Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, dans la Passion, a été en désolation. Dans toute lettre dans l'Évangile, le premier signe de la désolation, c'est la tristesse. Et dans l'Évangile, on voit très bien, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est au jardin de Gethsémani, qu'est-ce qu'il dit? Mon âme est triste à mourir. À mourir. La tristesse, c'est le signe de la désolation. Donc, humainement parlant, notre Seigneur Jésus-Christ, passant en désolation, a accepté la désolation. Pour nous montrer justement comment lutter quand on est nous-mêmes en désolation. Donc voilà ce que disent les pères, sur ce sens caché, ce sens mystique. Nous naviguons tous avec le Seigneur dans la barque de l'Église sur la mer orageuse du monde. Le Seigneur, cependant, dort d'un sommeil de miséricorde et attend ainsi notre patience dans les maux et le repentir des pécheurs. Il commandera lui-même au vent, c'est-à-dire aux démons qui soulèvent les flots, au prince de ce monde qui suscite les persécutions contre les saints, le Christ fera régner un grand calme autour du corps et de l'esprit en rendant la paix à l'Église et la tranquillité au monde. Et c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ va aller à la poupe du bateau, au dehors du bateau, et là il va calmer les flots pour bien montrer qu'il est maître des persécutions. Et du moment qu'il est dans la barque peut tanguer, les flots peuvent s'élever de la droite et à gauche, des vagues terribles. Notre Seigneur est dans la barque ne craint rien. Et pour bien montrer qu'il est maître des éléments et des hérésies extérieures, qu'est-ce qu'il fait? Il monte à l'avant du bateau et là, il calme la tempête. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ explique par cette tempête apaisée qu'il ne faut pas espérer aller au ciel dans le bateau de l'Église sans affronter les tempêtes. C'est impossible. On aura de toutes parts des attaquants, des assaillants qui vont essayer de faire couler la barque. Pourquoi? Parce que la barque représente non seulement l'Église, mais cette petite barque représente aussi notre âme. Et donc notre âme a une cargaison très précieuse, et la cargaison la plus précieuse qui soit, c'est l'état de grâce. Donc les pirates vont essayer d'attaquer le barreau du bateau, monter sur le bateau pour jeter la cargaison à la mer. Il y a toute une série d'images qui ont été utilisées par les pères de l'Église dans différents endroits, où justement ils montrent que toutes les oppositions qu'on voit, par exemple, ils disent que les vents qui soufflent en tempête représentent les démons. Bon. Les récifs qui sont cachés sous les flots, qu'on ne voit qu'à marée basse mais pas à marée haute, représentent les hérésies. Les hérésies qui sont insidieuses, on n'arrive pas à les voir exactement parce qu'elles sont cachées au milieu, au milieu de choses qui apparaissent comme bonnes. Et derrière ces choses qui apparaissent comme bonnes, il y a des hérésies qui sont cachées. Ça représente le récif qui est juste sous la ligne de l'eau, qu'on ne voit pas parce qu'il est caché par la mer, mais qui tout simplement peut déchirer complètement le navire et faire couler le navire, donc faire perdre la cargaison. Les courants, par exemple, les courants qui poussent le bateau dans une direction opposée à celle qu'il devrait utiliser, les courants représentent les trois concupiscences. Concupiscence de la chair, des yeux et de l'orgueil. Alors après, il y a d'autres images qui sont prises par les pères très souvent. À l'époque, c'était la marine à voile, donc il y a les trois mâts qui portent toutes les voiles, la foi, l'espérance et la charité, qui portent les sept voiles des dons du Saint-Esprit. Donc chaque don du Saint-Esprit est relié à un mât, soit la foi, soit l'espérance, soit la charité. Alors on peut discuter pendant des heures pour savoir quel don du Saint-Esprit, donc quelle voile. Mais l'important, c'est que toutes les voiles soient sur les mâts. Et en fonction de la direction des vents, le tonnier, le capitaine du navire, va déployer certaines voiles en fonction des besoins. Par exemple, au moment des tentations très fortes, et bien il va déployer la voile de la force. Au moment des hésitations sur le chemin à tenir, il va déployer la voile du conseil. Et au moment de désolation, il va déployer la voile de la piété. Et au moment où il faut prendre des décisions importantes, il va déployer la voile de la sagesse, etc. Donc, on est un petit peu, nous, comme dans cette barque. Donc, le vent souffle, l'orage se déchaîne. On a l'impression que notre Seigneur Jésus-Christ nous a abandonné, mais il nous a pardonné. Il est là. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi il dort? Pourquoi il dort? On remarque très bien que notre Seigneur Jésus-Christ va calmer la tempête, mais pas au début. Il laisse d'abord un certain temps les apôtres paniquer dans la barque pour bien montrer que sans lui, on ne peut rien faire. S'il avait calmer la tempête immédiatement au début, le premier souffle de vent, on se serait dit, bon, ça va, on n'a rien à craindre, on n'a même pas à craindre les tentations, puisque notre Seigneur va s'occuper de ça tout de suite. Non, il faut comprendre que même les grands saints ont été parfois exposés à des tentations terribles. Il n'y a pas que le démon a tenté notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Les trois tentations au désert, c'est ça, hein. La tentation de transformer les pierres en peintre, en tentation de tout posséder, tout ce qui se voit depuis le haut de la montagne, etc., sont les tentations qui représentent les tentations du démon, du monde, et nos propres tentations qui viennent de nous-mêmes, mais qui s'opposent à ce que demande notre Seigneur. Alors, il y a d'autres images aussi. C'est que la mer donc représente les flots agités du monde, et la barque dans laquelle montre Jésus-Christ, sa barque est en bois, à l'époque tous les vaisseaux étaient de bois, la barque dans laquelle montre notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'arbre de vie. Et c'est l'arbre de vie, c'est ça qui représente c'est le bois de la croix qui représente la puissance de Dieu face aux tempêtes. On voit la même image aussi, par exemple, on voit pour l'évangile de demain, c'est un peu ça, l'évangile de dimanche prochain, donc c'est un peu ça. La veuve de Naïm, c'est la même image. La veuve de Naïm qui amène son fils unique au cimetière. Le fils unique, les pères de l'Église expliquent que le fils unique, il est dans un cercueil de bois. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il arrête le cercueil, il touche le cercueil de sa main. et puis donne l'ordre, lève-toi, et le mort ressuscite. Et bien, notre Seigneur Jésus-Christ qui touche le cercueil, c'est le symbole de notre Seigneur Jésus-Christ qui, avec le bois de la croix, vivifie l'âme et la fait ressusciter. On voit ici le texte, c'est trois paragraphes avant la fin de la page 25. Donc, la mer, ce sont les flots agités du monde. La barque dans laquelle monte Jésus-Christ, c'est l'arbre de la croix, à l'aide duquel les fidèles traversent cette mer du monde et parviennent à la céleste patrie comme un port assuré. Jésus-Christ monte dans cette barque avec ses disciples, et c'est pour cela qu'il est dit plus bas que celui qui veut venir après moi se renonce lui-même, qui porte sa croix et qu'il me suive. Donc une autre image qui est expliquée par les pères, donc la tempête représente aussi les troubles qui vont agiter l'âme de celui qui n'est pas encore prêt à accepter la croix. Lorsque le Christ fut attaché à la croix, il se fit une grande agitation parce que l'âme de ses disciples fut troublée par le spectacle de la passion. On le voit très bien au Jardin des Oliviers où tous les apôtres, tous, sans exception, vont s'enfuir. Tous s'enfuir. Bon. Et pourquoi ? Parce que leur âme n'était pas encore stabilisée dans le vrai, dans le bien. Bon. La barque fut donc couverte par les flots quand la violence de la persécution se déchaîna autour de la croix sur laquelle Jésus-Christ succomba. Donc on a eu l'impression qu'au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, c'était la fin complètement de l'Église. En fait, c'était son début. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, en fait, avait enfermé le démon de nouveau dans les enfers. Donc, le Seigneur a commandé au vent lorsqu'il a écrasé l'orgueil du démon. Il a commandé à la mer en dissipant la fureur insensée des Juifs. Et il s'est fait un grand calme car la frayeur des disciples, s'apaisa lorsqu'ils furent témoins de la résurrection de leur maître. Vous voyez, donc, les vents représentent, il y a plusieurs symboles expliqués par les pères de l'Église, ici les vents représentent l'orgueil. Et la mer qui s'agite en flot énorme représente l'état de notre âme. C'est une autre image que j'aime beaucoup chez les pères. Les pères font remarquer que même dans les tempêtes très fortes, donc il y a des vagues énormes qui se forment en surface, vous descendez 10 mètres sous les flots, il y a toujours le calme. Toujours le calme. Deux images que j'aime bien, ça c'est la première image, sous les flots c'est toujours le calme, et donc notre âme, la mer en fuite représente l'âme dans la tentation. L'âme en tentation, on a l'impression qu'on va être complètement dépassé par les tentations, mais en fait, si on sait descendre à l'intérieur de notre cœur par l'esprit de raison, à ce moment-là, dans l'esprit de raison, c'est toujours le calme. Alors on laisse le vent souffler là-haut, on laisse les vagues se creuser là-haut, mais 10 mètres en dessous, c'est toujours le calme. Une autre image que j'aime bien, c'est aussi l'image du bouchon. Prenez un bouchon sur l'eau, on ne peut pas faire couler un bouchon, c'est impossible. Vous pouvez déverser dessus des tonnes et des tonnes d'eau, le bouchon ressort toujours à la surface. C'est l'image d'une âme qui a confiance en bon Dieu. Donc le démon va essayer de déverser les flots d'orgueil sur cette âme pour essayer de la faire sombrer, il n'y arrive pas. Le bouchon flotte toujours, même s'il y a des vagues énormes de 50 mètres d'eau qui vont tomber sur le bouchon va faire un tour sous l'eau, mais il ressort toujours. C'est l'image de l'état de grâce qui nous permet de toujours garder la tête hors de l'eau, mais il ne faut pas croire que parce qu'on a un état de grâce, ça veut dire qu'il n'y aura pas de tentation. Donc cette tempête extérieure représente les tentations. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui veulent bien suivre notre Seigneur Jésus-Christ, et puis que lorsqu'ils ont une tentation, tout de suite ils prient le bon Dieu, enlève-moi la tentation tout de suite. Et ce n'est pas forcément la volonté du bon Dieu. Le bon Dieu, parfois, permet qu'une âme se sanctifie dans la tentation. Si l'âme était toujours dans la paix constamment, ben, il n'y aurait plus de mérite de suivre notre Seigneur. On voit très bien que Saint Paul, le grand Saint Paul, pas n'importe qui Saint Paul, le plus grand saint de l'histoire de l'Église, quand il demande à notre Seigneur Jésus-Christ de le délivrer d'une tentation très forte qu'il avait, une épine dans la chair. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça, tous les pères de l'Église ne sont pas d'accord. Vraisemblablement, Saint Paul avait une grosse tentation pour la pureté. Et c'est ça l'épine dans la chair. Eh bien, il supplie notre Seigneur Jésus-Christ de l'en délivrer, et notre Seigneur Jésus-Christ, ma grâce te suffit. Mais ça, c'est notre histoire. Hein. Le bon Dieu ne nous demande pas, ne nous a jamais permis, ne nous a jamais promis, si vous voulez, qu'on aurait un voyage vers le ciel, qui serait un voyage sur un coussin de velours, hein, pas du tout. Il nous a simplement promis une arrivée en douceur. Mais le voyage depuis ce monde jusqu'à l'autre, non, c'est la guerre, c'est la tentation, c'est les coups de vent, c'est les ouragans, tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le bateau de l'Église est insubmersible, comme le bouchon. Le bouchon, il suit les vagues. Et puis c'est tout. Alors on voit d'énormes rouleaux qui va emporter le bouchon dans tous les sens. On a l'impression qu'il a coulé. Il n'a pas coulé parce que dès que la vague est passée, le bouchon sort. C'est l'image justement d'une âme en état de grâce qui n'a pas à craindre les persécutions. Donc c'est pour ça, il faut pas. Il faut, beaucoup de gens sont comme ça. C'est un peu pénible même ça parfois. Où ils ont l'impression que s'ils vivent en état de grâce, il faut en contrepartie que Dieu leur donne la paix de l'âme constamment. Mais bon, Dieu ne permet pas forcément qu'il y ait la paix de l'âme tout le temps. Une paix intérieure, oui, ce qu'on appelle l'esprit de raison. L'esprit de raison, c'est ça. Quelqu'un qui a l'esprit de raison gardera toujours son âme en paix. Donc il va descendre 10 mètres sous la surface des flots quand il y a la tempête, et là il est toujours en paix. Mais au-dessus, ça souffle. Et comme le bateau, lui, il ne peut pas descendre, il reste là-haut, alors le bateau, il va être ballotté dans tous les sens. Mais ce bateau, cette barque ballottée dans tous les sens, représente l'âme. Et notre Seigneur Jésus-Christ, qui est au fond de la barque et qui dort tranquillement, bien, ça représente justement l'état de grâce qui est au fond de la barque, qui est notre âme, et qui est toujours là, et qui maintient en quelque sorte le bateau à flot. On peut comparer, c'est une comparaison un peu moderne, on peut comparer, notre Seigneur Jésus-Christ qui dort au fond de la barque à la quille qu'on ne voit pas, qui est sous le navire, et qui s'enfonce profondément sous le navire, et qui stabilise le navire. Tant que la quille est là, le bateau va tanguer dans tous les sens, va toujours se redresser à cause du poids de la quille. Et bien, c'est pareil pour notre Seigneur. Est-ce qu'on a notre Seigneur Jésus-Christ en nous? Oui, on laisse le vent souffler, il se calmera, d'accord? Donc, cette barque qui est couverte par les flots représente la violence de la persécution. Donc, le Seigneur a commandé au vent, lorsqu'il a écrasé l'orgueil du démon, il a commandé à la mer en dissipant le fureur insensé des Juifs. Il s'est fait un grand calme quand la frayeur des disciples s'apaisa lorsqu'ils furent témoins de la résurrection de leur maître. Et donc, ça représente toute la vie du chrétien. La vie du chrétien est une vie de bataille, de bagarre. Et c'est ça qui est très pénible dans le monde moderne, c'est que l'Église de Vatican II veut présenter la vie des chrétiens comme un long fleuve tranquille. Donc il faudrait arriver à avoir une vie sans problème, mais c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord ? Alors d'autres remarques des pères de l'Église, page 26 sur le polycopier. Donc la barque, c'est l'Église de la terre, dans laquelle le Christ traverse avec les siens la mer de ce monde et apaise les flots des persécutions. Digne objet de notre admiration, de notre reconnaissance. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, tant qu'il est, encore une fois, tant qu'il est dans la barque, il n'y a rien à craindre. Donc, Dieu permit cette tempête. Donc, il y a plusieurs tempêtes dans la vie de notre Seigneur, on voit dans les évangiles. Dieu permit cette tempête provoquée par des causes naturelles, comme le vent et la puissance des nuages et des vapeurs, pour montrer son pouvoir, pour exciter ses disciples à supporter les persécutions des hommes qu'ils allaient devoir subir, et aussi pour augmenter la foi de ses disciples. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ qui dort dans la barque, c'est une leçon de fidélité en disant, mais pourquoi avez-vous peur? Puisque je suis là. À partir du moment où je suis là, vous n'avez rien à craindre. Vous voyez? Alors, c'est l'image aussi, une belle image dans la vie de Sainte Catherine de Sienne, avec un petit peu la même idée, quoi. Sainte Catherine de Sienne, la grande dominicaine, une fois, on la voyait régulièrement, notre Seigneur, qui lui a parlé plusieurs fois, et une fois, elle avait des tentations terribles, toutes sortes de tentations qui l'a harcelée. Donc, elle se précipite devant le tabernacle en disant, Seigneur, venez vite m'aider. Parce que j'ai une tentation terrible. Et elle appelle notre Seigneur au secours, notre Seigneur ne vient pas. Alors elle continue d'appeler, notre Seigneur ne vient pas, alors elle se bat, elle a l'impression de perdre la paix intérieure. Et puis finalement, au bout d'un temps assez long, de grosses, très fortes tentations, le calme se fait, notre Seigneur Jésus-Christ lui apparaît. Et Sainte Catherine de Sienne lui demande, mais Seigneur, où étiez-vous pendant cette tempête terrible qui était dans mon âme? Et notre Seigneur Jésus-Christ lui répond, j'étais dans ton âme. Et dans ton âme, je prenais plaisir à voir ton combat. Et c'est parce que j'étais dans ton âme que tu as réussi, que tu as pu, avec ma grâce, triompher de cette tentation, ne pas y succomber. Donc, c'est pas parce qu'il y a des tentations énormes que ça veut dire qu'on a des mauvais gars. Il y a des gens qui ont des très très fortes tentations de toutes sortes, et puis ils sont en état de grâce. La tentation n'est pas un péché, tant qu'il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de péché. Il y a parfois des gens qui se découragent, hein, monsieur l'abbé, c'est un vrai scandale, j'ai des tentations terribles contre la foi. Vous acceptez les tentations? Ben non, j'arrête pas de me battre. Mais alors, non seulement c'est pas un péché, mais c'est un acte. Le fait que vous ayez toutes ces tentations vous permet d'augmenter en vous la foi. C'est des épreuves que le bon Dieu donne. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle tentation d'épreuve. Les tentations de séduction, elles sont voulues par le démon, et les tentations d'épreuve, elles sont permises par le bon Dieu. C'est facile de suivre notre Seigneur Jésus-Christ quand tout est calme. Alors, bon, il y a beaucoup de catégories qui sont comme ça. Il va bien remonter sur le bateau, il va bien aller de cette terre au ciel, à condition que la traversée soit un grand calme, un long fleuve tranquille, comme on dit, pendant toute la traversée. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça. Il va y avoir les pirates, il va y avoir les courants, il va y avoir les ouragans, il va y avoir les écueils qui sont cachés là-dessous. Et le bon Dieu va nous donner jour après jour les grâces. Mais il nous donne les grâces au moment où on en a besoin. Si vous avez un gros ouragan qui est prévu le troisième jour de traversée, il ne va pas vous donner les grâces pour lutter contre l'ouragan. Le premier jour de la traversée, vous n'en avez pas besoin. Il va vous donner ses grâces au moment où vous en avez besoin. Alors, ce qui fait que souvent, on panique un peu parce qu'on voit l'ouragan qui arrive, on n'a pas encore les grâces pour lutter contre cet ouragan parce qu'on n'en a pas encore besoin. Au moment où elles arrivent, où l'ouragan vient sur nous, à ce moment-là, les grâces arrivent. Ça, c'est très utile, c'est très, très important aussi pour toutes les histoires de persécution. C'est très fréquent dans certains milieux où les gens pensent aux persécutions à longueur de journée. Ils se rendent malheureux comme des pierres à cause de ça. Parce alors, ils lisent que des récits de martyrs, par exemple. Je connais des gens comme ça, pratiquement tout le temps, le martyr. Alors, ils vont dire, ah, c'est épouvantable, ce que je vais faire quand il y aura un feu pour me bouer, les scies pour me couper en deux, en sens de la longueur, en largeur, et toutes ces tentations des lions pour me manger, je vais faire quoi? Attendez, ces tentations ne sont pas là. Vous voyez, on voit très bien que chez les martyrs, c'est toujours pareil. Le bon Dieu donne des grâces au moment où ils en avaient besoin, pardon. Donc on n'a pas besoin maintenant de grâce spéciale pour être mangé par un lion qui a un grand sourire. Le bon Dieu, il n'y a pas comme ça. Non, il ne demande pas ça. Et puis, il ne faut pas trop non plus faire un petit peu attention aussi de ne pas trop demander ces grâces de martyr, parce que les grâces de martyr, attention, c'est pas donné à n'importe qui. Hein. Une grâce de martyr, ça correspond à un acte de charité parfaite. C'est-à-dire que la personne qui meurt martyr dans un feu ou mangée par les lions passe directement dans l'estomac des lions au ciel. Hein. Il n'y a pas de peine du purgatoire pour les martyrs. Donc c'est des grâces. Hein. Et là, il y a une phrase magnifique de Saint-Pierre Chrysologue, au milieu de la page 26. Ce n'est pas par temps calme que l'on peut juger la qualité du pilote, mais quand il fait face à un ouragan. N'importe quel matelot peut conduire le bateau dans une brise légère, mais dans la confusion des tempêtes, l'habileté du meilleur capitaine est requise. Donc, il y a aussi une autre phrase des pères que j'aime bien qui dit « Une vie sans épreuve est comme une mer morte. » Une mer morte, c'est une mer qui est incapable de donner la vie. Donc la tempête représente les futures épreuves de l'Église, le bateau dans les vagues symbolise l'Église et l'âme dans les tentations par lesquelles elles sont éprouvées. Ainsi, disent les pères, un homme sans tentation est comme quelqu'un qui se pâme ou qui est mort. La tentation, au contraire, l'oblige à exercer ses facultés pour la vaincre. Si les tempêtes poussent en avant les navires pour qu'ils arrivent plus rapidement au port tant désiré, ainsi les tentations stimulent l'homme à un plus grand zèle pour la vertu qui le pousse vers le ciel. Et donc ce sont les épreuves de ce genre sont nécessaires. Donc c'est un peu le drame, c'est que dans l'esprit de beaucoup de catholiques, on prie notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il nous supprime les épreuves. Mais on ne se rend pas compte que les épreuves sont nécessaires pour qu'on puisse aller dans le ciel. On voudrait, c'est un peu souvent, dès qu'il y a une épreuve, on demande au bon Dieu de l'enlever. On prie tout de suite pour demander au bon Dieu de l'enlever. Et pas une seule seconde, on se pose la question, est-ce que cette épreuve n'est pas tout simplement permise par le bon Dieu pour me rendre plus fort? C'est dans les épreuves qu'on voit où sont les bons soldats, d'accord? Alors, là, il y a des... J'ai mis ici, au milieu de la page 26, des beaux exemples de comparaison des pères. Donc, la tempête de vagues et de vent représente les tentations d'orgueil, de gourmandise, de luxure, d'envie. Que celui qui est tenté fasse comme les marins pendant la tempête. Donc, les pères, c'est très beau, ils vont expliquer ce que font les marins dans la tempête et ils vont assimiler ça à ce qui se passe dans notre âme et ce qu'on doit faire avec une âme quand on a la tempête de la tentation. Donc, d'abord, pendant la tempête, les marins roulent d'abord les voiles pour que la force du vent n'ait plus autant de pouvoir sur le navire, le précipitant vers la destruction. Donc, on roule les voiles. Bon, s'il n'y a plus de voile, ben évidemment, l'importance du bâtiment au vent elle diminue, va même être complètement annulée. Le navire va être comme un bouchon au sommet de la vague, mais au moins, il ne bouge plus, quoi. Donc, que celui qui est tenté, disent les pères, roule les voiles de ses plaisirs et se donne au jeûne et à la pénitence. Donc l'image des voiles qui sont roulés représente la pénitence et la mortification des sens. Deuxième exemple, le marin pousse le navire vers la haute mer pour que celui-ci n'aille pas se fracasser sur les rochers. Donc que celui qui est tenté fuit le monde et ses mondanités pour se réfugier en Dieu, comme dans un port de refuge, il dira avec le psalmiste, « Mon âme refuse de réconfort, j'ai pensé à Dieu et je fus rafraîchi. » Et donc, celui qui, donc le navire qui est redirigé vers la haute mer, c'est le navire spirituel qui quitte les parages du monde. Les eaux côtières représentent les eaux tout proches du monde. Bon, et c'est vrai qu'en haute mer, les vagues sont beaucoup moins hautes qu'en dans les endroits où la mer s'approche d'une côte, une côte rocheuse par exemple. Le fait de la montée du plateau continental sous l'océan, ben, va provoquer des vagues terribles. Alors qu'au contraire, en haute mer, les vagues sont moins fortes. Autre chose que les marins font lorsqu'ils sont dans la tempête, ils jettent par-dessus bord les marchandises pour alléger le navire, ainsi que les tentés allègent leur esprit par le moyen de la contrition et de la confession du poids lourd de leur péché. Donc les marchandises qui sont jetées par-dessus bord pour alléger le navire représentent les péchés qui sont effacés par le sacrement de pénitence. Les docteurs disent bien que celui qui se prépare à un voyage long et périlleux doit aller se confesser pour se trouver en état de grâce alors qu'il est à l'article de la mort. Donc, quand on voit l'orage qui arrive, quand on sait que la tempête va arriver, une des meilleures protections contre la tempête, c'est la confession. Là, il se confessait avant. Pas pendant, parce que pendant, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut se confesser avant que la tentation arrive, pour être justement plus fort lorsque la tentation arrive sur nous. Autre moyen, un bon capitaine maintient son courage avec présence d'esprit et fait tous ses efforts pour échapper au péril de la tempête. De même, celui qui est tenté doit faire la même chose. Le capitaine de navire prouve qui il est pendant la tempête et le soldat pendant la bataille. Donc, si on a pris soin de prendre la cuirasse de la protection, le bouclier de la foi, le bouclier de la protection pendant les moments de paix, quand la tempête se déchaîne, on est là pour suffisamment préparé, suffisamment armé pour lutter contre la tentation. Alors l'oreiller maintenant, notre Seigneur, d'autres textes parallèles, notre Seigneur dort sur un coussin, la tête sur un coussin au fond de la barque. Donc cet oreiller sur lequel repose le Christ représente la bonne conscience, la résignation à la volonté divine et la confiance en la puissance de Dieu et sa providence. Le croyant peut alors se poser dans toutes ses adversités. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ qui dort en paix sur l'oreiller pendant la tempête représente celui qui a la paix de sa conscience. Il s'est confessé, il est en état de grâce, bon, eh bien, ça va se couler, bon, on attend que ça se passe. Alors, il y a un beau texte aussi de saint Augustin au sens anthropologique. Donc le Christ invoqué dans nos prières commande aux persécuteurs et aux tentations de l'âme qu'on enseigne saint Augustin. Il y a un beau texte, j'ai mis un caractère italique. Vous sentez-vous insulté? C'est le vent. Êtes-vous en colère? Ce sont les vagues. Quand le vent souffle, les vagues montent. Le navire est en péril. Le cœur est en danger, car il est secoué par les vagues. Quand vous entendez des injures, vous voulez vous venger. Mais si vous le faites, c'est le naufrage. C'est parce que le Christ s'est endormi en vous. Vous l'avez oublié. Réveillez-le. Rappelez-lui que vous êtes là. Laissez le Christ garder votre âme. Pensez à lui. Pourquoi voudriez-vous vous venger? Il s'est coupé de la vengeance par son cri sur la croix. Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vais couper en moi la colère, retourner au calme dans mon cœur. Le Christ commande à la mer, il se fait un grand calme. Ce que je viens de dire concernant la colère doit s'appliquer à toutes les tentations. Réveillez le Christ et laissez-le parler pour vous. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ qui se réveille, c'est le symbole justement de l'âme chargée de péché qui retrouve le calme par l'absolution sacerdotale. Notre Seigneur Jésus-Christ qui ordonne au vent et aux vagues de se calmer, c'est l'ordre du médecin de l'âme, du prêtre, donc qui donne comme ordre à l'âme, au démon de partir, de quitter l'âme. Hein. Je t'absous de tes péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, sur un sens allégorique, donc une explication de Saint-Bède le Vénérable, le navire avec son mât représente l'arbre de sa croix. L'arbre de la croix du Christ, grâce auquel nous qui étions engloutis dans les vagues de la mer pouvons nous sortir des flots comme disciples du Christ et aller vers le pays éternel. Car le Christ a dit, si quelqu'un vient après moi, qu'il prenne sa croix et me suive. d'autres explications. Il y a certains passages comme celui-là, dans la tempête apaisée, qui beaucoup, beaucoup attiré les pères. Un tas d'explications des pères. On trouve ça surtout dans la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin. Analogiquement, le Christ dormait pendant le temps de sa passion. Bon, la tempête se leva, préparée par les coups du démon. Les disciples réveillèrent le Seigneur dont ils avaient vu la mort, désirant sa résurrection. Ressuscité, il gronde le vent, l'orgueil et le démon. Il calme la tempête, les folles insultes des juifs. Il réprimande ses disciples en leur reprochant leur incrédulité après sa résurrection. Vous voyez comment les pères de l'Église voient derrière toute une série de détails, en fait, comment cela s'applique à nos âmes. Notre Seigneur Jésus-Christ qui est à la tête sur un coussin, qu'est-ce que représente ce coussin, par exemple? Donc, c'est justement avec les pères de l'Église qu'on arrive à retrouver ça. Ben, ce coussin, c'est la bonne conscience, tout simplement. Donc on avance, page 27, on va terminer le chapitre 8 si on peut, page 27, versets 28 à 34. Lorsqu'ils furent à l'arrivée de l'autre côté, au pays des Géraséniens, deux possédés vinrent au-devant de lui, sortant des sépulcres, si furieux que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voici qu'ils se mirent à crier en disant, « Qu'y a-t-il entre vous et nous, Seigneur, Jésus, Fils de Dieu? Êtes-vous venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Or, il y avait non loin d'eux un grand troupeau de porcs qui paissait. Et les démons le priaient en disant, « Si vous nous chassez d'ici, envoyez-nous dans ce troupeau de porcs. » Il leur dit, « Allez. » Étant sortis, ils entrèrent dans les pourceaux. Et voici que tout le troupeau alla se précipiter avec impétuosité dans la mer et ils moururent dans les eaux. Alors les gardiens s'enfuirent et venant dans la ville, ils racontèrent tout cela, ce qui était arrivé aux possédés. Et voici... Pardon, que toute la ville sortit au devant de Jésus, l'ayant vu, il le priait de s'éloigner de leur territoire. Alors, qu'est-ce que veut dire ce passage un peu particulier? Donc, les démons, les pères de l'Église font remarquer que les démons viennent proclamer la divinité de notre Seigneur. Donc, les hommes ne voyaient dans Jésus-Christ que la nature humaine, mais les démons viennent proclamer la divinité. C'est pour ça qu'ils disent, « Qu'y a-t-il entre vous et nous, Jésus, Fils de Dieu ?» Donc c'est le démon qui fait une profession de foi. « Êtes-vous venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Donc là, on voit très bien que les démons avaient... Pardon, j'ai oublié de... On voit bien ici que les démons proclament la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Même si le prince des démons, Lucifer, ne savait pas de façon certaine que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Parce que s'il avait su de façon certaine que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu, il n'aurait jamais fait crucifier. Et donc il y a une confusion là dans le démon, mais on voit bien ici, par ce texte-là, au verset 29, chapitre 8 de saint Matthieu, qu'en fait, certains démons avaient deviné qu'il était fils de Dieu. Vous voyez ? Donc les hommes ne voyaient en Jésus-Christ que la nature humaine, les démons viennent proclamer sa divinité. Afin que ceux qui n'avaient point écouté la voix de la mère, en fureur, et soudain redevenus calmes, entendissent la voix des démons. C'est l'objet des versets suivants. Jésus étant passé à l'autre bord, dans le pays des Géraséniens. Alors, parmi les animaux immondes, ils choisirent de préférence les pourceaux parce qu'il n'y a point d'animal plus immonde. Donc, pour le juif, le porc était le symbole même de l'impureté spirituelle et l'impureté physique, les deux. Donc, ils considéraient le porc comme un animal immonde. Pourquoi? Parce que le mot de pourceau, en latin, elle est même synonyme de couvert d'ordures, et que cet animal se plaît au milieu des immondices. Donc, pour montrer que le démon se plaît au milieu des immondices spirituelles, c'est-à-dire du péché, donc notre Seigneur Jésus-Christ envoie le démon dans les pourceaux. Ces deux possédés du démon sont aussi la figure des païens. Donc, il y avait deux personnes qui étaient là. Donc, Donc, les deux possédés du démon sont ceci la figure des païens, car Noé, ayant eu trois enfants, Sem, Cam et Japhet, et la famille de Sem ayant formé le peuple de Dieu, ses deux frères sont comme la souche de la multitude des nations païennes. Donc, les Sémites, si vous voyez, Sem, le père des Sémites, et les deux autres frères vont être la source, si vous voulez, des nations païennes. Avant le rassemblement de toutes ces nations dans le seul paradis de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, donc, au début, va s'occuper que des Sémites, c'est-à-dire du peuple élu de l'Ancien Testament, mais avec l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, le refus du peuple sémite d'accepter notre Seigneur Jésus-Christ va aller chercher les nations païennes représentées par Cam et Japhé. Alors, Saint-Hilaire explique, donc c'est en bas de la page 27, Saint-Hilaire explique, voilà pourquoi les démons retenaient ces deux possédés hors de la ville, hors de la synagogue, de la loi et des prophètes. En effet, les origines de ces deux nations étaient comme situées au milieu des demeures des défunts, des cadavres des morts, rendant le chemin de la vie présent dangereux à tous ceux qui le traversent. Donc, quand on était obligé de traverser des zones dans lesquelles le démon un libre cours, mais il s'agit de se protéger avec le bon Dieu. Alors, si on se protège avec le bon Dieu, eh bien, à ce moment-là, le démon ne peut pas faire ce qu'il veut. On voit ça dans certains exorcismes. Ou dans certains exorcismes, quand les démons étaient vraiment furieux, le prêtre allait chercher le Saint-Sacrement. Carrément. Il a mis le Saint-Sacrement dans la pièce où il y avait lieu l'exorcisme, et il ordonnait aux démons de se taire avec le Saint-Sacrement en main. Alors, autre explication donnée par les pères, ici par Rabban Mor, ce n'est pas sans raison que l'évangéliste nous fait remarquer que ces deux possédés habitaient dans les tombeaux, que sont en effet les corps de ceux qui sont infidèles à leur Dieu, si ce n'est des tombeaux où est renfermée non pas la parole de Dieu, mais l'âme que les péchés ont mise à mort. Donc les tombeaux avec la corruption des morts représentent l'âme qui est possédée par le démon. La mort physique représente le travail du démon sur un corps. Dans Saint Curé d'Ars, il comparait souvent l'âme en état de péché mortel, un cadavre d'un animal qui était laissé en plein mois d'août sur la place du village quand il a crevé. Donc, et il disait, mais quand vous voyez toutes ces mouches qui arrivent, tous les vers des vers qui sortent de cet animal en putréfaction, eh bien, ça représente le travail du démon sur une âme. Ces deux hommes donc représentent aussi ces deux hommes possédés par le démon. Donc deux possédés, c'est au chapitre 8, verset 28, deux possédés vinrent à lui, en sortant des sépulcres, si furieux que personne ne pouvait passer sur ce chemin. Donc ces possédés, disent les pères, représentent les juifs et les païens, qui n'habitaient plus dans leur maison, c'est-à-dire qu'ils ne trouvaient plus de repos dans leur conscience, et qui demeuraient dans les tombeaux, c'est-à-dire dans les œuvres mortes, et personne ne pouvait plus passer par le chemin de la foi que les attaques des juifs rendaient impraticables. Donc ça montre que cette férocité des démons, justement, des possédés par les démons, représente l'âme, justement, qui cherche à se séparer de Dieu. Donc ceux qui viennent au devant de Jésus figurent au contraire le concours de ceux qui se portent volontairement au devant du salut. Quant aux démons, voyant qu'ils ne peuvent plus demeurer au milieu des gentils, ils demandent avec instance qu'on leur laisse habiter le cœur des hérétiques. Donc les pourceaux ici ne représentent pas simplement les démons, mais représentent aussi les hérétiques. Et à peine s'en sont-ils emparés que par l'instinct qui leur est naturel, ils les précipitent dans la mer, c'est-à-dire dans les passions du monde, pour les y faire périr avec les restes de l'incrédulité. Donc le pourceau qui se précipite dans la mer représente l'hérétique qui se précipite dans les passions du monde. Alors d'autres images, cette fois-ci par Saint Bède le Vénérable, les pourceaux sont ceux qui mettent leur jouissance dans la fange du vice. Car le démon n'a de pouvoir sur personne qu'à moins qu'il ne vive de la vie des pourceaux, et où s'il a quelque pouvoir, ce n'est point celui de perdre, mais d'éprouver. Donc, là, il y a toute une série d'images qui sont très belles. Les pourceaux qui ont été précipités dans le lac sont une figure de ceux qui, après que les gentils ont été délivrés de la tyrannie des démons, ont refusé de croire en Jésus-Christ et pratiquent dans les lieux retirés leur rite sacrilège, aveuglés qu'ils sont, comme submergés par les abîmes de leur curiosité. Donc ils vivent dans les sépulcres parce qu'ils refusent notre Seigneur Jésus-Christ. Donc leur âme devient de plus en plus pourrie, c'est le symbole des corps, des morts qui pourrissent. Les gardiens de pourceaux qui s'enfuient tout en annonçant ce prodige figurent ces princes des impies qui, tout en ne voulant point se soumettre à la loi chrétienne, ne cessent cependant de célébrer avec admiration la puissance de Jésus-Christ. Ceux qui, frappés d'une grande crainte, prient le Sauveur de s'éloigner, représentent la multitude retenue par la fausse douceur de ses anciennes habitudes qui ne veulent point rendre honneur à la loi chrétienne en disant qu'il est il lui est impossible de l'accomplir. Vous voyez, donc, on voit très bien comment les pères de l'Église utilisent des images avec des choses de tous les jours. Les pourceaux, la mer, le vent, la tempête, c'est des choses que les habitants de la Palestine connaissaient bien. Donc ça leur permet de comprendre un petit peu ce que certains faits et gestes de notre Seigneur Jésus-Christ, qui semblent des détails, en fait ne sont pas des détails du tout, ça présente quelque chose d'autre. Donc on a bien avancé aujourd'hui, on a fini chapitre 8, donc la prochaine fois, on commencera le chapitre 9, à la page 29, donc aujourd'hui on est combien? On est ça sera pour le 4 septembre. Donc on va finir par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Nos saints anges gardiens, Saint Joseph, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.